France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Fabien Benoît.
Bonsoir.
Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, documentariste, vous êtes déjà l'auteur d'un livre qui s'appelait Le Monde expliqué aux vieux Facebook. C'était à cette époque, il y a quelques années, quand il fallait encore expliquer ce qu'était Facebook aux éditions 10-18. Et nous vous invitons parce qu'après avoir entendu la semaine dernière dans cette séquence innovation, Tristan Harris, qui est pas un renégat, mais en tout cas un ancien de la Silicon Valley, un ancien acteur qui travaillait chez Google et qui en est sorti, qui aujourd'hui est un des figures de proue du mouvement déconnexionniste, il nous semblait assez intéressant de revenir avec vous sur cette histoire politique de la Silicon Valley. C'est le sous-titre de votre livre paru aux éditions des Arènes, The Valley. Vous essayez de retracer depuis ses tout débuts, depuis cette petite mission de San José ou San Juan, d'ailleurs j'ai un trou.
San Joseph,
en Californie, et disons la manière dont il existe une véritable idéologie, une véritable histoire à cette vallée qui aujourd'hui est plus puissante qu'un État, vous le dites, et vous n'êtes pas du tout le seul à le dire. On parle souvent, on en a beaucoup reçu ici, des acteurs qui situent le moment de l'émergence de cette vallée au moment de la contre-culture, mais vous revenez au tout début et vous rappelez que cette fameuse vallée, elle est très marquée par ces figures des chercheurs d'or. Vous considérez, et avec vous plusieurs universitaires que vous citez, que c'est là véritablement que naît l'empreinte idéologique qui va marquer la vallée. De quoi on parle ?
En fait, je pense qu'il faut remonter assez loin pour comprendre un petit peu l'esprit politique, puisque c'était la quête et le but de cet ouvrage-là. Et je pense que la Silicon Valley, elle est installée en Californie, entre San José, vous le disiez, et San Francisco, sur une petite bande de territoire qui fait 70 kilomètres. Elle est inscrite dans ce territoire américain, même si aujourd'hui on se figure le numérique comme quelque chose de dématérialisé, déterritorialisé. Elle est quand même inscrite dans une histoire. Et les entrepreneurs, universitaires, chercheurs qui vont façonner cette histoire sont quand même emprunts des mythes et de la mythologie américaine, à commencer par celle de la conquête de l'Ouest, des chercheurs d'or, et aussi celle de la destinée manifeste, c'est-à-dire cette mission presque divine d'aller conquérir l'Ouest américain. Et on le sent toujours aujourd'hui dans la culture, dans le langage, dans l'attitude et dans l'esprit politique, oserais-je dire, de la Silicon Valley, où il s'agit souvent de recommencer le monde d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand je suis allé discuter avec des gens dans la Silicon Valley, c'est qu'on parle très rarement du passé. On parle des problèmes du présent, mais on ne dit pas qu'il faut les réparer, on se dit souvent qu'il faut recommencer. Et finalement, il y a un peu dans la destinée manifeste, dans la conquête de l'Ouest, cette idée de tout recommencer sur un nouveau territoire, de reposer des bases, de changer le monde. C'est un peu le point Godwin de la Silicon Valley. Change the world, make a better place, make a better world. Il y a cette idée en permanence de tout changer. Et je pense que voilà, ce territoire-là et puis sa culture politique est marquée par des valeurs qui sont américaines.
Pionnier et un idéal au fait où l'État n'était pas là.
Exactement. Il y a une forme de nostalgie, et ça je pense que le livre en témoigne, c'est-à-dire qu'il y a un attachement profond à la liberté, et finalement en fait, il y a chez beaucoup d'entrepreneurs, de penseurs de la Silicon Valley, une forme de nostalgie vis-à-vis d'un âge d'or un petit peu des États-Unis qui remonterait au tout début finalement de ce pays, à un moment où la liberté était totale, très grande, où l'État était très peu interventionniste, où il s'agissait de pionniers, de self-made man, d'innovateur, d'inventeur, et voilà, où la liberté individuelle, parce qu'on en revient toujours là, c'est la liberté individuelle dont il s'agit, était très grande.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous revenez aussi aux origines d'une des institutions fondamentales de cette Silicon Valley et qui est aujourd'hui encore un acteur majeur de cette économie du numérique, c'est l'université de Stanford, de laquelle on parle souvent, on parle parfois du MIT à Boston. Vous rappelez la manière dont cette université à la fois se construit, alors vraiment véritablement dans ce contexte de la fin du 19e siècle avec cette ruée vers l'or et ces entrepreneurs, on peut le dire, qui sont pas nécessairement des humanistes, le fondateur de Stanford est loin d'être cela, vous allez nous en parler, et comment d'emblée elle permet à des chercheurs, et elle se conçoit non seulement comme une université, mais comme un endroit où les gens vont faire des entreprises tout de suite. On a l'exemple, et vous en parlez très bien, de Frédéric Terman, qu'on connaît pas si bien, et celui de Hewlett-Packard. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de ces trois figures et du contexte assez inédit que constitue alors Stanford ?
Alors Stanford, elle a un surnom que je signale dans le livre. Alors c'est The Farm, la ferme, parce qu'elle a fait, elle a nourri, elle a fait émerger de nombreux talents, de nombreux chefs d'entreprise et de nombreux prix Nobel, hein, faut le dire également. On la surnomme aussi parfois Get Rich U, l'université où on devient riche. Et en fait, elle a placé assez tôt dans son ADN, dans sa vision académique, si je puis dire, l'idée de fabriquer des entrepreneurs. Et c'est une des recettes finalement qui va faire son succès. Je le signale aussi, il y a une sorte de triangle de fer qui se noue, c'est-à-dire une relation à trois acteurs, l'université, l'État fédéral et en particulier le champ militaire, le département de la défense, et les entreprises et les entrepreneurs. Et c'est cette relation à trois, pour le dire vite, hein, pour résumer, mais qui va catalyser un peu l'émergence de la région. Stanford étant installé en plein cœur de la Silicon Valley, de la vallée de Santa Clara, en plein milieu, à Palo Alto. Et parmi les figures tutélaires qui vont accompagner ce changement, qui vont le catalyser, il y a Fred Terman, qui est un professeur à l'université de Stanford, dont le père était lui-même professeur à l'université de Stanford.
Psychologue spécialiste, disons, des surdoués, et avec là encore une spécialité, ou en tout cas un rêve très eugéniste, c'est-à-dire repérer les gens les plus intelligents et pourquoi pas en faire les maîtres du monde, cette aristocratie des plus intelligents. Ça, c'est une idée aussi qui est forte dans la Silicon Valley.
Voilà, c'est quelque chose, c'est un point qui est intéressant et qui mérite d'être souligné. Si on veut essayer de délimiter une sorte d'esprit politique de la Silicon Valley, on peut se rendre compte, et c'est l'objet aussi de ce livre, de retracer un peu, de tirer les fils historiques et finalement de se rendre compte que dès les débuts de Stanford, il y avait cette vision-là que les élites doivent gouverner, qu'en fait les inégalités sont naturelles, on n'est pas égaux et qu'il faut que ce soit voilà les gens qui soient les plus doués ou les plus équipés intellectuellement. Le père de Terman était spécialisé ou a co-inventé les tests de QI.
Ouais.
Et il y avait cette idée-là en fait, et d'ailleurs c'est pas un hasard si au début du XXe siècle, c'est en Californie que le terme même de technocratie émerge, c'est-à-dire un gouvernement, alors pas nécessairement par les plus intelligents, mais en tout cas par les plus compétents scientifiquement parlant. Quand on parle de technocratie au début du XXe siècle, c'est notamment une réponse au grand crash du début du XXe siècle, à la grande crise économique aux États-Unis. On dit qu'en fait, voilà, les techniciens, les ingénieurs seront plus à même de diriger le pays qu'un personnel politique élu par les citoyens.
Alors évidemment, ça c'est la fin du XIXe siècle, tout ceci émerge, les figures de Hewlett-Packard avec effectivement une exploitation des premières technologies liées au téléphone, etc. Et puis ensuite, après, il y a ce fameux moment de la contre-culture californienne qui semble être un espèce de moment beaucoup plus ouvert, où on se met à rêver, où on est dans des questions d'idéaux. Et c'est un moment qui, vous le dites, en fait, dure très peu de temps, n'est absolument pas antithétique avec l'idée d'être libertarien et de se défaire de l'État. Et qui en fait se termine très vite. Et vous donnez la date de 76, une date qui est importante pour vous, c'est la date où un certain jeune Bill Gates envoie une lettre aux amateurs. Et qu'est-ce qui s'est joué entre ce moment de la contre-culture et ce moment de 76 qui referme finalement ce moment-là très vite?
Il y a un premier point à souligner qui peut paraître surprenant quand on s'y intéresse pas, c'est que la contre-culture californienne, le mouvement hippie en particulier, est pas du tout opposé au marché. C'est-à-dire, il se défie des institutions, de l'État, de tout ce qui est centralisé. Et certaines valeurs qui sont vraiment inscrites au cœur de cette contre-culture californienne, en particulier l'autonomie individuelle, cette défiance vis-à-vis de l'autorité, en fait, est tout à fait compatible avec le marché, et va être tout à fait compatible avec une idéologie qui est beaucoup plus droitière, les libertariens, qui eux défendent un individualisme assez farouche, assez radical, et qui aussi eux prônent la dérégulation et puis voilà le détachement de l'État et un État le plus réduit possible. Et là on en revient à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire ce mythe un petit peu fondateur des débuts de l'Amérique. Pour revenir sur 1976 et Bill Gates, c'est un moment. C'est une charnière, c'est très symbolique comme moment. C'est-à-dire que jusqu'alors, on est au tout début de l'histoire de la micro-informatique, c'est-à-dire que de jeunes bidouilleurs, de jeunes amateurs éclairés, essayent de fabriquer des ordinateurs personnels. Ils pensent que cela va changer le monde. Et jusqu'alors, ils sont emprunts un petit peu des codes, de la culture universitaire. Et ils s'échangent des savoirs, les logiciels, gratuitement, dans le but de les améliorer, en fait, collectivement, de faire jouer l'intelligence collective.
Et en 67, Bill Gates leur dit, ça y est, ça c'est fini.
Et voilà. Et Bill Gates rentre dans la partie. Alors, lui, il vient pas de Californie, hein. Il a été pouponné dans des lycées, dans des écoles, une université prestigieuse. Voilà. Il vient pas de ce monde-là. Mais lui, il comprend qu'en fait, le logiciel a une valeur économique et il réinjecte une dimension qui n'existait pas jusqu'alors dans ce monde du logiciel, c'est la propriété. Mmh. Et ça va ouvrir sur toute une période qu'on connaît très bien, ça va être les débuts de l'informatique et en particulier les années 90 où le logiciel, où l'informatique vont devenir un business.
Et vous citez d'ailleurs la création de la revue Wired en 93 qui finalement enfonce le clou de cette culture-là. Nous sommes déjà quasiment à la fin de cette interview et pourtant nous sommes dans un monde où tout ce qu'on vient de définir, donc la question du libertarisme, la question de la propriété qui revient sur le tapis en 76, sont au cœur finalement de la manière dont cette vallée fonctionne aujourd'hui. Une vallée qui, vous le dites, a plus de pouvoir qu'un État. Vous mettez en exergue sur votre quatrième de couverture cette phrase de Peter Diamandis, qui est président d'un think tank qui est financé comme beaucoup d'autres d'ailleurs par Google. Nous allons profondément changer la nature humaine, nous réinventer en tant qu'espèce, c'est notre job. Nous n'attendrons ni le gouvernement ni les citoyens. Il y a aussi véritablement aujourd'hui une idéologie transhumaniste et un idéal transhumaniste qui traverse la vallée. Vous le décrivez très bien dans ce livre et en détail. Que peut-on face à cette idéologie et concrètement au pouvoir des gens qui sont dans cette vallée? Est-ce que vous voyez une solution justement politique? On passe son temps, et ça fait partie des débats qu'on a souvent ici à Softpower, à dire mais nous sommes face à un pouvoir économique. Quelles sont les solutions qui pourraient être politiques pour offrir une réponse politique à cette vision du monde qui est aussi politique et pas qu'économique?
Alors déjà, le constat que vous faites est juste, c'est-à-dire cette visée transhumaniste, et c'est bien là le propos de mon livre, c'est de dresser une sorte de trajectoire quant à cette culture politique, notamment le fait qu'en fait, elle est éminemment, c'est une forme de capitalisme radical, presque totalisant, totalitaire, dans la mesure où il veut embrasser tous les champs de notre vie, ne rien laisser de côté. Le transhumanisme, c'est ça. C'est aller jusqu'à la mise sur le marché de tout ce qui nous constitue. Moi, j'ai tendance à croire en l'État et à croire que l'État...
C'est effectivement, vous êtes à la fois très pessimiste sur le bilan, mais à la fois relativement positif dans vos conclusions là-dessus.
L'attitude des États est assez ambiguë. Jusqu'à présent, ils ont accompagné le mouvement. Ils ont souvent accompagné finalement et fait les louanges en fait des entreprises de la Silicon Valley et des GAFAM. On a encore entendu Emmanuel Macron il y a très peu de temps dire que la France devait être une start-up nation. Mais en fait, déjà, il faut commencer par interroger tous les concepts qui sont portés par la Silicon Valley. Les villes intelligentes, il faut mettre ça en débat et le questionner. L'école numérique, ça ne va pas de soi, il faut le questionner. Et puis, je pense qu'en fait, les États sont appareillés pour répondre aussi à ce pouvoir peut-être démesuré des grandes entreprises de la Silicon Valley. Aux États-Unis, juste pour finir là-dessus, par exemple, on commence à songer à démanteler des GAFAM. On commence à se dire qu'il faut imposer ces entreprises comme les autres, pas plus que les autres, mais comme les autres. Pour qu'elles participent du bien collectif et de la collectivité.
En gros, les États ont des outils, il faut qu'ils s'en servent. Merci beaucoup à vous, Fabien Benoît. The Valley, une histoire politique de la Silicon Valley, est paru aux éditions Les Arènes. Merci.
Merci à vous.